le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine dont voici le sommaire. 79,1 millions de dollars américains, c'est le budget mis à la disposition de la RDC par le Fonds pour la consolidation de la paix du Secrétariat général des Nations Unies, PBF. Le PBF est un instrument financier en premier recours pour maintenir la paix dans les pays où un conflit violent risque d'éclater ou sévit déjà. Jeudi dernier, le comité de pilotage conjoint des projets financés par ce fonds en République démocratique du Congo s'est réuni pour la toute première fois. Dans cette édition, vous suivrez le coordonnateur humanitaire résident de l'ONU, Bruno Lemarquis. Encore un chiffre, 121 millions, c'est le nombre de grossesses non désirées enregistrées en moyenne chaque année. Les statistiques continuent dans le dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population. UNFPA RDC a publié jeudi dernier ce rapport sur la population mondiale après l'avoir dévoilé deux jours plus tôt à la presse. Selon cette agence de l'ONU, les grossesses non désirées constituent la moitié des grossesses dans le monde et 60% d'entre elles aboutissent à un avortement. Et dans le volet sécuritaire, nous irons à Beni au Nord Kivu avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Pendant son séjour, le numéro 2 de la MONUSCO a notamment eu une séance de travail avec le maire de Beni. Ce sont là les principales informations de ce magazine que nous allons développer dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de votre fidélité. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, PBF, a mis à la disposition de la RDC une enveloppe de 79,1 millions de dollars américains pour financer des projets porteurs de réponses alliant la réconciliation, la justice transitionnelle et la réintégration socio-économique dans des régions en conflit ou post-conflit, en l'occurrence le Kasaï, le Kasaï central et le Tanganyika. Pour la première fois, le comité de pilotage conjoint des projets de ce fonds en République démocratique du Congo s'est réuni jeudi 14 avril 2022 à Kinshasa. Les gouverneurs des trois provinces concernées citées plus haut y ont pris part. La réunion devait évaluer les projets en cours et analyser les perspectives. Pour Bruno Lemarquis, le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, le PBF devrait appuyer des projets en tenant compte des contextes de transition que présente le processus de départ progressif de la MONUSCO. Les propos du coordonnateur humanitaire recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Personnellement, je pense que l'utilisation de ce fonds et les décisions d'investissement doivent s'inscrire pour éviter la dispersion, éviter le saupoudrage, en appui à des initiatives ayant le potentiel d'être vraiment amenées à l'échelle, avec un véritable impact sur la situation elle-même. Également, appuyer des initiatives qui correspondent à certains moments clés, des moments charnières, des phases, des processus critiques. Par exemple, le processus critique est le moment charnière de la transition de la MONUSCO dans la province du Tanganyika, parce que la MONUSCO se retire et il faut s'assurer que tout ce qui a été investi depuis des années et des années soit soutenu. C'est aussi un fonds qui doit appuyer certaines couches de la population, certains groupes, tels que les femmes, les jeunes, dans les processus de consolidation de la paix.
Le monde enregistre chaque année environ 121 millions de grossesses non désirées, dont 60% aboutissent à un avortement, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Le bureau de cette agence en RDC a livré le contenu de ce rapport au cours d'une conférence de presse organisée mardi 12 avril 2022 à Kinshasa. Jeff Opela, reportage.
Près d'une grossesse sur deux dans le monde n'est pas intentionnelle. Chaque année, 121 millions de grossesses non désirées sont ainsi recensées. Une véritable crise mondiale, une crise oubliée, estime le FNUAB dans son nouveau rapport sur la population de la planète. En République démocratique du Congo, le bureau de l'agence onusienne est préoccupé par les graves conséquences de cette crise sur les droits fondamentaux en matière de sexualité et de reproduction des femmes et jeunes filles. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, RDC, le souligne dans son mot introductif.
C'est un rapport qui est produit chaque année. Et cette année, le thème, c'est comprendre l'imperceptible, agir pour combattre une crise négligée, qui est les crises négligées et qui a des grossesses non désirées. Une grossesse non désirée, c'est une crise invisible parce que les nombres de grossesses non désirées sont énormes. Mais honnêtement, souvent on ignore. C'est presque 50% des grossesses qui n'aiment pas sont des grossesses non désirées. Presque la moitié.
Pour sa part, le représentant adjoint, soutenu par son collaborateur, nous donne quelques chiffres à Kinshasa.
Rien que pour la ville de Kinshasa, on dénombrait déjà au cours de cette année 560 000 grossesses, parmi lesquelles 61% n'étaient pas désirées. Une moyenne de 147 grossesses donnait un peu une idée sur l'ampleur de la situation.
Ces rapports du Fonds des Nations Unies pour la Population tirent la sonnette d'alarme sur les nombres effarants des grossesses non intentionnelles. Cette agence onusienne veut donc aider les populations à accéder à la contraception ainsi qu'à des services et à des informations d'importance vitale en matière de santé reproductive et donne aux femmes et aux filles le moyen de prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leur vie.
Autre nouvelle, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Ndiaye, était à Beni mercredi dernier. Il a rencontré le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Mouteba Kachalé. Au menu de leur discussion, entre autres, la situation sécuritaire. Le maire de Beni, au micro de Joël Bofengo.
Nous avons échangé avec lui sur la situation de la ville de Beni. Et nous avons parlé aussi du procès des ADF qui se déroulent dans la ville. Nous avons parlé aussi de ce qu'il est venu faire ici, donc s'enquérir, voir ses administrés. Non, en tout cas, nous sommes dans une étroite collaboration avec la MONUSCO et tout va très bien. Donc la MONUSCO, elle le savait très bien, c'est notre partenaire incontournable. Nous sommes en train de travailler très bien avec le chef de bureau présent et les commandants FBI. Donc tout se passe bien. Pour le moment, la ville, elle est très calme, très calme.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC a atteint près de 90% de couverture vaccinale contre les maladies de la petite enfance et en une vingtaine d'années, le pays a bénéficié à cet effet de près $1 milliard de l'Alliance de vaccins Gavi, une organisation internationale dont la mission principale est de permettre l'accès des enfants des pays pauvres à la vaccination. La directrice générale de Gavi, en charge de la mobilisation de ressources, a accordé à Radio Capi à partir de Genève une interview exclusive. Suivez plutôt son entretien avec Honoré Missinga Kalala.
Marie-Ange Saraka Yao, bonjour.
Bonjour.
Madame, vous êtes directrice générale en charge de la mobilisation des ressources, partenariat avec le secteur privé et financement innovant au sein de Gavi. D'abord, Gavi, c'est quoi et quels sont ses objectifs?
Alors, Gavi, c'est une alliance qui regroupe tous les partenaires en fait clés de la santé, donc y compris les agences mondiales telles que l'OMS, l'UNICEF, mais aussi la Banque mondiale, évidemment les pays que nous soutenons, les pays donateurs, les groupes pharmaceutiques, les agences de recherche. Donc c'est vraiment une alliance qui a été formée au début des années 2000 pour soutenir les efforts d'immunisation des pays, puisqu'à l'époque, les taux d'immunisation étaient très faibles. L'idée, c'est vraiment de regrouper l'ensemble des pays à faible revenu pour créer une force de frappe, si je puis dire, pour réussir donc à créer un marché et donc à avoir accès à des vaccins à des prix abordables et surtout donc justement en se basant sur les économies d'échelle. En 20 ans, on a réussi à immuniser plus de 800 millions d'enfants, puisque la mission première de Gavi, c'est l'immunisation de routine, n'est-ce pas? Mais aussi donc à sauver des millions de vies. Donc on est vraiment basé sur le partenariat public-privé et avec tous les pays, évidemment.
Puisqu'on est dans la vaccination et l'immunisation, quel rôle joue Gavi dans la riposte contre le Covid-19 dans le monde en général et en Afrique en particulier, notamment dans le cadre du programme COVAX?
Alors justement, fort de son expérience de 20 ans de partenariat à en fait connecter les différents partenaires pour répondre aux différentes exigences de la vaccination, lorsque la crise du Covid a éclaté, naturellement, les partenaires se sont tournés vers Gavi et les autres membres de l'Alliance pour aider à monter une réponse rapidement. C'est ainsi que, en fait, la plateforme qu'on appelle communément ACT-A a été lancée, et plus particulièrement la plateforme COVAX qui se focalise justement sur la réponse vaccinale. Donc Gavi est vraiment le chef de file avec les autres partenaires de l'Alliance pour cette réponse. Et de cette expérience dont Gavi s'est attelé donc pour vraiment pouvoir développer un portefeuille de vaccins large et étendu auquel les pays peuvent se tourner, en tout cas qu'on peut offrir aux pays pour la réponse vaccinale. Donc à ce jour, COVAX, donc sous donc l'impulsion de Gavi et des autres partenaires, a aujourd'hui livré plus de 1,4 milliard de doses de vaccins à 145 pays, et 90% donc vont aux pays à revenus faibles et intermédiaires pour cette initiative donc qui fait partie de COVAX, qui s'appelle le COVAX AMC, qui est vraiment dédié aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Et dans ce cadre-là, donc environ 1,2 milliard a été donc livré aux pays AMC, et l'Afrique a reçu près de la moitié de ces vaccins.
Oui, près de la moitié pour le continent africain. Quelle est la part de la RDC?
Alors la RDC a reçu plus de 5 millions de doses de vaccins, principalement donc les vaccins ARN messagers, mais aussi donc certains des autres vaccins.
Oui, madame, l'Afrique aspire à fabriquer ses propres vaccins sur le continent. Quel peut être l'apport de Gavi pour permettre à ce continent d'atteindre cet objectif?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que Gavi, donc au début des années 2000, quand Gavi a commencé, la fourniture de vaccins venait principalement de producteurs qui étaient situés dans les pays à revenus élevés, donc environ 5 producteurs. Et 20 ans plus tard, maintenant, nous recevons des vaccins de plus de 20 producteurs, en majorité dans les pays émergents. Donc, forte de cette expérience, notamment pour faciliter les transferts de technologies et aider l'émergence de producteurs régionaux, Gavi se tient prêt à soutenir le développement régional en Afrique. Je crois que ce qui est très important, c'est donc justement apportant les éléments, notamment pour développer un plan financier soutenable dans le long terme et aussi une diversification au niveau des vaccins.
Le taux de vaccination contre le Covid-19 est encore en dessous de 15%, du moins jusqu'au mois dernier, et de moins de 1% en RDC, ce qui est encore loin de l'objectif de 70% pour la fin du premier semestre de cette année que s'était fixé l'OMS. Comment Gavi explique-t-elle ce déficit de couverture vaccinale contre le coronavirus sur le continent en général et en RDC en particulier?
Oui, alors je crois que en fait, au début, comme vous savez, la préoccupation principale quand la crise du Covid a éclaté, c'était vraiment de pouvoir avoir accès aux vaccins. Et donc, beaucoup d'efforts se sont focalisés là-dessus sur toute l'année dernière. Maintenant, ce qui est positif, c'est que on a les vaccins dans des volumes importants, comme je l'ai dit plus tôt, et on peut donner aussi la prévisibilité au pays. Donc je pense qu'un des premiers freins au départ, c'était déjà pouvoir avoir accès aux vaccins. Et maintenant que ces vaccins arrivent, la priorité, c'est vraiment soutenir les pays pour augmenter la capacité, pour faire le renforcement du système de santé, de façon à ce qu'au fur et à mesure que de grandes quantités de vaccins arrivent, ils puissent être administrés et que les services de santé donc puissent être soutenu de façon importante. Donc c'est vraiment la focalisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des pays AMC en général, donc à 92 pays, la moyenne de couverture vaccinale, c'est 42%, mais il y a en effet de grandes différences selon les pays. Et ce qu'on voit en effet, c'est que en Afrique, en général, donc la couverture est environ de 15%. Donc nous sommes en train de redoubler d'efforts pour soutenir les pays. Maintenant que les doses sont là pour soutenir les pays, et vraiment chaque pays a un plan adapté qui est en train d'être mis en place. Ce qui est positif, c'est que depuis le début de l'année, on voit vraiment qu'il y a une accélération. Par exemple, au début de l'année, il y avait 34 pays qui avaient moins de 10% de couverture, et on voit maintenant qu'il n'y en a plus que 19. Donc, les autres pays ont atteint déjà 20%. Donc, ce qui montre qu'il est possible de redoubler d'efforts et avoir des résultats rapidement. Donc, ça nous encourage vraiment à soutenir les pays. Au niveau de la RDC, Je crois qu'en effet, déjà, c'était déjà avoir l'assurance que les vaccins pouvaient arriver. Je dois dire que la RDC a été de tout temps, avec notre partenariat, du partenariat avec Gavi, un champion de l'immunisation. C'est un des pays qui a eu le plus de soutien dans les 20 dernières années et qui, en fait, en termes de taux d'immunisation de routine, a parmi les taux les plus importants pour la couverture de base, près de 90%, ce qui est vraiment exceptionnel. Il est très clair que la crise de la pandémie a affecté donc les services de santé. Donc maintenant, nos efforts conjoints, c'est de restaurer ces services pour que justement on puisse accélérer la vaccination aussi Covid, en même temps que les autres vaccinations qui sont très importantes, comme on sait, la rougeole, toutes les autres vaccinations qu'il faut restaurer au système de base. Donc nos équipes travaillent d'arrache-pied. Il y avait une mission il y a 15 jours, je sais qu'il y a une autre mission qui arrive encore dans quelques jours. Donc on est optimiste parce qu'on sait que la RDC est un champion de l'immunisation à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre, comme on l'a vu avec Ebola ou beaucoup d'autres maladies. Mais la pandémie a joué un rôle important. Il faut pouvoir renforcer les systèmes, rassurer aussi la population parce qu'il y a eu une hésitation vaccinale qui, bon, dans certains pays, c'est important de pouvoir donner toutes les informations et mais surtout soutenir les systèmes de santé pour les restaurer.
Merci beaucoup, Madame Marie-Ange Saraka Yao.
Merci de votre intérêt.
En plus bref, la MONUSCO a lancé le 5 avril 2022 une opération d'envergure contre les groupes armés actifs dans la zone du Bali, à plus de 100 km de Bounia dans le territoire de Djougou. Objectif, préserver la sécurité des populations et de leurs biens dans cette contrée. Au cours de cette opération, 5 militions ont été neutralisées, 9 autres blessés ainsi que des munitions et armes blanches et de guerre saisies par les casques bleus de la mission onusienne. De Djougou, nous allons à Beni, toujours dans l'est de la RDC. Des policiers de la Légion nationale d'intervention ont reçu du 22 au 23 mars 2022 à la prison centrale une formation de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO sur l'intervention en milieu carcéral. 12 éléments de la PNC ont appris notamment les techniques pour intervenir lors d'une émeute ou d'une mutinerie au sein de la prison. Le directeur de cette maison carcérale, souvent menacé par des groupes armés, a salué cette action de l'unité correctionnelle de la mission onusienne. Restons encore dans la ville de Beni. Pour fermer cette page, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne, a inauguré jeudi dernier un système d'éclairage public dans cette ville. Les lampadaires installés sont alimentés grâce à l'énergie solaire. Ils vont illuminer 500 mètres d'une voie qui mène vers le centre de santé de référence de Mavivi pour faciliter l'accès des malades pendant la nuit.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Une fois n'est pas coutume, l'invité de ce dimanche n'est autre que le docteur Jean Lagrasse Kongodi, chef de projet communication des risques et engagement communautaire à la RTI, une institution de recherche partenaire de l'Université de Caroline du Nord qui assiste plusieurs gouvernements à travers le monde, notamment dans le domaine de la santé. Le chercheur était en mission de travail de terrain à Kinshasa dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et il a répondu aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Docteur Kongodi Jean Lagrasse, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, vous êtes ici dans la commune de Lemba. Est-ce que nous pouvons savoir les motivations de votre présence ici?
Ok, merci. Je suis le chef de projet communication des risques et engagement communautaire chez RTI International. Donc RTI International, c'est Research Triangle Institute. Donc c'est un institut de recherche qui travaille avec l'Université Caroline du Nord et qui intervient auprès de plusieurs gouvernements à travers le monde dans les cas de développement, bien-être et puis la santé. Actuellement, nous sommes dans le domaine de la santé ici en RDC par rapport à mon projet de communication des risques et engagement communautaire contre la COVID-19. Et ici à Lemba, nous sommes là parce que, avec le financement de CDC Atlanta, nous intervenons dans la communication des risques et engagement communautaire communautaire dans deux provinces, la province de Kinshasa et la province de Haut-Katanga. Alors, pour très bien nous orienter dans notre approche, nous avons mis un focus sur la communauté, donc sur l'organisation des cellules d'animation communautaire, en sigle CAC. Parce que nous avons pensé que nous travaillons pour le respect des mesures barrières et l'acceptation de la vaccination contre la COVID-19. Or, tout ça se passe au niveau de la communauté. Raison pour laquelle nous avons voulu que la communauté soit organisée de sorte qu'elle puisse se prendre en charge par rapport au partage d'informations et par rapport à son engagement pour reculer, disons, les risques d'attraper la COVID-19. Alors, ici, là, nous sommes en train d'organiser ces CAC, ces cellules d'animation communautaire dans la commune de Lemba. On vient de lancer cette activité aujourd'hui. Nous sommes dans cette étape avec la population pour aboutir à l'élection des membres de ces cellules d'animation communautaire.
Et en fait, le but ici, c'est de sensibiliser les gens sur les risques du COVID-19. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire ça alors que sur le terrain, on remarque une certaine diminution des cas? Comment concilier l'action que vous faites avec cette baisse des cas au niveau de la société?
Oui, ça c'est ça notre objectif. Il faut qu'il y ait sensiblement réduction des cas de COVID-19, même si aujourd'hui nous constatons qu'il y a baisse de nombre de cas de COVID-19, mais les risques restent toujours là. Raison pour laquelle nous allons continuer à sensibiliser la population, nous allons continuer à travailler que la population s'engage dans le respect des mesures barrières et que la population s'engage dans la vaccination contre la COVID-19. Parce que là, au moins, nous serons en mesure de dire que dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, même si on ne sera pas en phase épidémique ou la pandémie ne sera pas frappante comme telle, mais on sera quand même dans une phase de résilience. La population doit savoir comment s'organiser de sorte que plus tard, s'il y a encore un événement de cette nature, comment la population pourra se prendre en charge.
La résilience alors.
La résilience.
Vous étiez dans plusieurs milieux de Kinshasa, notamment au camp Kokolo. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes à Lemba. Et la prochaine étape, c'est où?
Ok, nous avons 5 zones de santé ici dans la ville de Kinshasa, notamment camp Kokolo, comme vous l'avez cité. Aujourd'hui, nous sommes à Lemba. Massina 1 commence déjà au courant de la semaine. Nous avons Mongafula 1 aussi qui va commencer, je pense au plus tard début de la semaine prochaine. Mongafula 1 aussi va commencer le processus, bon, disons la phase ici, parce que le processus a déjà commencé depuis début mars. Mongafula 1 va aussi élire ses membres et nous finirons par la Gombe, la zone de santé de la Gombe aussi qui va terminer avec cette phase.
Docteur Kongodi Jean Lagrasse, je vous remercie particulièrement.
Merci, je vous remercie également.
Évaluation de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région de Beni, au Nord Kivu, une mission de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, s'y était rendue la semaine dernière et a rencontré le chef du bureau intérimaire de la MONUSCO de la place. Cette délégation a été conduite par le coordonnateur de la CIRGL. Des échanges entre ce dernier et le chef de bureau AI de la mission ont tourné autour de la situation sécuritaire à Beni. Abdourahmana Ganda s'était exprimé au micro de Martial Papimoukeba.
La CIRGL est un partenaire important dans nos activités, mais aussi pour la RDC dont elle est membre. Donc elle suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, la question d'insécurité ici dans le Grand Nord. Ils étaient déjà ici en novembre. Ils sont revenus faire le suivi par rapport à l'évolution de la situation entre novembre et aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons fait le tour d'horizon de nos opérations sur le terrain, la dynamique actuelle des groupes armés, surtout les ADF, et aussi la dynamique actuelle liée à l'opération conjointe IPDF-FRDC. Ils nous ont assuré de leur soutien, de tout l'intérêt qu'ils portent à ce que nous sommes en train de faire, et aussi nous ont demandé des pistes à leur indiquer comment nous soutenir davantage ce que nous avons fait. Elle est proche de la MONUSCO, elle est proche de la RDC. Vraiment, elle suit avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se passer.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quels sont les groupes armés qui se sont illustrés dans le recrutement d'enfants? Le représentant de l'UNICEF en RDC avait répondu à cette question posée à la Conférence des Nations Unies du 28 mars 2022. Suivez sa réponse.
L'UNICEF, d'ailleurs en collaboration avec la MONUSCO et d'autres partenaires, travaille sur un mécanisme de surveillance et de monitoring qu'on appelle le MRM communément, des 6 grandes violations des droits de l'enfant. En 2021, je pourrais citer 3, mais bon, j'ai pas toutes mes data avec moi, le détail du rapport du MRM qui est public, hein. C'est un rapport qu'on envoie au Conseil de sécurité. Mais on avait effectivement mentionné le groupe ADF, on avait mentionné le groupe Codeco et un certain nombre de groupes de MyMy. Voilà, c'est un peu les 3 grands pourfendeurs aujourd'hui par rapport au recrutement d'enfants. Il y en a d'autres et je vous conseille, on est naturellement prêt à vous distribuer le rapport du MRM que l'on a soumis au niveau du Conseil de sécurité il y a quelques mois.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates, mais 3 rendez-vous à retenir pour la semaine qui commence. 22 avril, journée internationale de la terre nourricière. 22 avril toujours, journée des filles dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication. Et enfin, le 23 avril, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention et merci également à Jean-Claude Sialla qui en a assuré la coordination technique. Je suis Babel Pongo Massimango. J'étais à la présentation de cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Restez branchés sur la radio de la paix pour la suite de nos programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.